bonjour à tous. Combien de temps pourra-t-il encore rivaliser à grande échelle avec les mondes virtuels, les réalités augmentées, les drogues garanties sans accoutumance ni séquelles? Lui, c'est le sommeil, si maltraité dans nos sociétés. Question posée par Dalibor Friou, qui vient de diriger un éloge du sommeil au Seuil. On le retrouvera à partir de 12h55 pour une discussion avec le philosophe Éric Fiat, qui fait lui une ode à la fatigue, la bonne, celle qui nous aide à être. Mais d'abord, l'infatigable Laurent Poitrenaud, à l'affiche du film Dylan Klipper, sorti mercredi et sur les planches pour une adaptation de L'Avare de Molière par Ludovic Lagarde. En ce moment, à voir à la Comédie de Reims et bientôt à Paris, au théâtre de l'Odéon, Laurent Poitrenaud est notre invité, à écouter en direct sur France Culture ou à retrouver plus tard sur le fil de vos podcasts.
La grande table. Olivia Gesbert.
Dans le ciel étoilé, au-dessus de nos têtes, vous êtes Bruno, plutôt poète, tendance misanthrope. Dans L'Avare, vous jouez le cupide Aragon, avare. Donc, si on croise ces deux actualités, il aurait été logique de vous retrouver en lice lundi pour un Molière du meilleur acteur. Mais pas de nomination cette année. Laurent Poitrenaud, bonjour.
Bonjour.
Pas de nomination.
Non, mais je... Comment dire? Non, mais pour moi, les Molières, c'est pas ma vie. Au sens où c'est pas ce que je vis au théâtre au quotidien, de ce que je vis depuis 30 ans. Ça représente pas du tout mon quotidien, du rapport au public, du rapport au théâtre que j'ai. Donc ça existe. J'ai même participé une année parce que voilà, j'y suis allé, j'ai vu ce que c'était, et puis c'est toujours bien d'aller voir. Et puis comme ça, tu sais que t'as moins envie d'y retourner. Mais surtout, c'est que ça représente tellement pas ce que je vis dans mon quotidien d'acteur.
En quoi? Il faut nous expliquer. On passe pas, nous, notre vie depuis 20 ans sur les planches dans ce théâtre. Quelle est la différence entre votre théâtre et celui qu'on verra s'afficher à la cérémonie des Molières?
Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. C'est que je pense qu'en fait, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un Molière du théâtre privé. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'il existe. Parce que je pense que pour le théâtre privé, ce Molière est très important. Il y a des spectacles qui réussissent à vivre une saison, deux saisons de plus grâce à cette récompense. Pour le théâtre public, c'est pas la même chose. En plus, cette cérémonie est retransmise à la télévision. Et donc, la télévision a certaines obligations d'audimat. Et donc, il faut qu'on montre aux gens des gens qu'ils connaissent déjà. Donc, par exemple, les gens souvent qui sont nominés sont des gens qui font souvent du cinéma, en plus, de la télé, qui sont repérés. Voilà, moi je suis pas du tout ça, et le quotidien, quand vous voulez me demander mon quotidien, c'est que là on parle un peu d'une certaine façon, d'un certain star system à l'échelle du théâtre, mais quand même, d'un certain vedettariat. Moi je vis pas mon métier comme quelqu'un qui vit le vedettariat, moi je vis mon métier, en plus il y a souvent la question du théâtre public, théâtre privé, moi j'ai rien contre le théâtre privé, mais quand on veut absolument les comparer, dire que c'est la même chose, j'ai envie de dire... Non, chacun travaille dans son domaine avec des paramètres différents. Et par exemple, on compare souvent spectacle à spectacle. C'est-à-dire, voilà, le spectacle du théâtre public, le spectacle du théâtre privé. C'est une chose. Mais pour moi, le théâtre public, car je me revendique comme un acteur du théâtre public, c'est un peu autre chose que des spectacles. C'est-à-dire, c'est oui, jouer le spectacle, mais c'est faire des rencontres dans des lycées, gratuitement, bénévolement. C'est faire des ateliers pour des amateurs. C'est faire des rencontres sur le territoire. C'est ça, la réalité de mon métier. Au-delà de mon métier d'acteur.
Une dernière question là-dessus. Aujourd'hui, certains, ou plutôt certaines, parlent de faire tomber le mur de Berlin entre théâtre privé et théâtre public. Une réunification vous semble possible ou elle n'aurait aucun sens?
Si le théâtre privé accepte de participer aux mêmes missions que le théâtre public, c'est à celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire organiser des ateliers, faire venir des gens au théâtre qui n'y viennent pas d'habitude, aller dans les lycées, aller dans les maisons de retraite, aller sur le terrain, formidable. Ça veut dire qu'on aura un immense théâtre public en France, mais je pense que ça ne sera pas le cas parce que tout le monde n'a pas les mêmes désirs et les mêmes rêves.
Laurent, votre nominé pour un Molière du Seul en scène, c'était en 2008, pour Ébauche d'un portrait d'après le journal de Jean-Luc Lagarce. Dans cet avare, le premier décalage, c'est la réactualisation de la pièce par Ludovic Lagarde, qui la situe dans un hangar rempli de caisses, un décor brut de décoffrage et des acteurs sans froufrou en tenue de ville. Incarnation peut-être, vous nous le direz, de notre société autophage, pour reprendre les termes de l'anthropologue Anselm Yap, un art pagon qui dévore ses propres enfants pour son propre bénéfice. C'est un vrai méchant que vous incarnez là.
Mais oui, j'ai découvert que moi, quand Ludovic Lagarde m'a proposé, on n'est pas habitué avec Ludovic à travailler plutôt sur le répertoire classique. On a plutôt une grande aventure avec Olivier Cadio, par exemple, sur le répertoire contemporain, puis d'autres textes. Et c'est vrai que pour plein de raisons, Ludovic a eu envie de monter un classique à un moment. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit :« Ça y est, j'ai trouvé. Ça sera l'Avare. » Et j'avoue que j'ai eu quelques secondes. Il y a eu quelques secondes de silence parce que je ne comprenais pas du tout. Pour moi, j'en avais une image un peu fausse. Une galéjade, une grosse farce. Et puis, il faut toujours faire ce qui, dans ces cas-là, revenir à la base, c'est-à-dire relire la pièce, relire le texte. Donc, je l'ai bien relu. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte qu'on, d'abord, c'est une grande drôlerie, mais également d'une grande noirceur. Effectivement, j'ai découvert qu'Harpagon était très, 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 très en colère. Et ça a été intéressant d'aller chercher dans cette noirceur, tout en maintenant, de toute façon, quoi qu'on fasse, il y a quand même un monsieur qui a travaillé très, très bien il y a quelques siècles, qui s'appelle Molière. Et même les soirs, on est fatigué. Voilà, il a tellement bien travaillé que les gens rient quand même. Donc, je crois que Ludovic a réussi à maintenir les deux chevaux, c'est-à-dire l'aspect de la noirceur, de la tragédie familiale, intime, et la folie de cet homme. Et puis de l'autre côté, la farce pure, parce qu'on vient quand même de la Commedia dell'arte aussi. Voilà, il y a ces deux champs-là, et je crois que c'est ça que les gens aiment bien, ce côté chaud-froid.
Oui, il disait aussi que dès les premières lignes, en lisant ce texte sur lequel il est retombé, qu'il connaissait peu, voire qu'il n'avait pas lu jusqu'ici, il a trouvé dès l'ouverture ce texte très actuel, comme si l'Avare nous parlait vraiment de la société aussi d'aujourd'hui. Vous avez aussi trouvé cet écho dans les mots de Molière.
Disons que je pense que ce qui intéresse Ludovic, c'est la rétention de l'argent et la folie que ça génère chez tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, moi bêtement, j'avais une vision de l'Avare un peu comme chez Picsou. En fait, dans les images qu'on a de Picsou, dans son immense coffre, et puis il plonge dans des pièces de monnaie. Mais en fait, quand tu lis la pièce, tu comprends qu'il n'a absolument aucune monnaie sonnante et trébuchante chez lui. Il n'a pas d'argent chez lui, vraiment. Il s'arrange. Et justement, la folie de la pièce, c'est que ce jour-là, on lui a rendu de l'argent sonnant et trébuchant. Et donc, le seul moyen qu'il a pour le cacher, c'est comme un chien d'aller creuser un trou dans son jardin comme un os et de le planquer. Et c'est ça qui le rend fou. Parce que sinon, habituellement, il n'y a pas d'argent qui circule. Un peu comme dans notre société. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'argent, mais on ne sait pas où il est. On sait que certains, le 1% qui détiendrait. Et cet argent ne circule pas et rend fou, en fait. Parce qu'on ne comprend pas, personne ne comprend. Et c'est ça qui était assez beau dans la pièce de voir comment cette folie joue chez chacun. Parce que tout le monde, ça met tout le monde à feu et à sang.
Et le metteur en scène, Ludovic Lagarde, a choisi de ne pas toucher au texte. C'est le Molière original, donc on a beau réactualiser en termes de scénographie, de décor, d'incarnation, le texte reste original. Je ne vais pas vous demander tout de suite de vous le mettre en bouche, mais on va d'abord se le mettre avec un extrait dans l'oreille.
Pourquoi me chassez-vous ? C'est bien à toi, Pandar, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme.
Qu'est-ce que je vous ai fait ?
Tu m'as fait que je veux que tu sortes.
Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre.
Ne m'attends, l'attendre dans la rue. Et ne sois pas dans ma maison, planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un traître et un espion de mes affaires, dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévorent ce que je possède et furettent de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler.
Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable? Quand vous renfermez toute chose?
Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Hein. Je tremble qu'il m'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché?
Vous avez de l'argent caché?
Ben non, coquin, je dis pas cela. Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai.
Et que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose?
Ah, tu fais le raisonneur. Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici, encore une fois.
Eh bien, je sors.
Avec Harpagon, l'avarice, la cupidité passe avant tout par le corps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Laurent Poitronneau. Il est même à quelques instants secoué de microspasmes comme des tics quand il doit sortir un sou. Son corps se tord. Vous pratiquez un jeu qui passe beaucoup par les gestes. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à en faire beaucoup quand il le faut. Vous pensez que, avant les mots, il y a le corps qui se met en mouvement. C'est d'abord ça, le jeu de l'acteur.
Disons que là, je vais pouvoir rendre hommage à une personne qui m'a changé comme acteur, qui s'appelle Odile Duboc, qui était une immense chorégraphe et surtout une immense pédagogue, et que j'ai eu la chance de rencontrer à l'occasion du Colonel des Oies, le monologue qu'on avait fait avec Ludovic Lagarde et Olivier Cadio. Et je dis toujours qu'il y a eu un avant et un après, parce que je pense qu'avant, j'étais un acteur sans corps. C'est-à-dire, je jouais sans corps. Enfin, ça suivait. Je n'avais aucune conscience. Et grâce à Odile, elle m'a décidé. Et c'est vrai que maintenant, je sais, des fois, j'aimerais bien faire un retour en arrière pendant 24 heures. Si j'avais pas rencontré Odile Duboc, quel acteur je serais sur le plateau? Et je pense que le corps serait vraiment absent. Alors que là, maintenant, je peux plus faire sans. C'est-à-dire qu'il est intimement lié à l'écriture. Plutôt qu'avant l'écriture, il est plutôt lié intimement à l'écriture. Et donc, c'est vrai que la VAR demande une certaine dépense. Le texte le contient, elle la contient cette dépense et bah, du coup le corps la relaie, voilà. Et c'est vrai que je ne m'interdis pas de. Après, moi je suis pas un acteur qui va chercher très très loin autour du texte, au sens où je pense que beaucoup de choses sont dans le texte. Et c'est vrai qu'à un moment la flèche qu'on vient d'entendre, jouée par Julien Storini, et quelqu'un qui dit à Frosine, mais non, mais si tu veux lui demander de l'argent, mais laisse tomber, c'est comme lui arracher les tripes, enfin il va hurler. Et d'un coup je me suis souvenu de ça et je me dis effectivement, donc à chaque fois qu'on va lui parler d'argent, je me suis dit ben physiquement, ça va se on va essayer de le traduire physiquement. C'est-à-dire que oui, il va se déliter. C'est-à-dire le corps va le lâcher. Et après, bah, on trouve des solutions physiques pour marquer ça.
Et justement, ça demande un grand lâcher-prise ou au contraire, un jeu dans le contrôle? Vous êtes un acteur sous contrôle?
Bah, moi, disons que j'aime bien penser qu'un acteur conscient et intelligent, c'est toujours mieux à voir sur un plateau qu'un acteur qui pense pas et qui réfléchit pas. Donc, effectivement, on va dire que je suis dans un état de conscience, mais toujours ça, encore une fois, grâce à cette rencontre avec Odile, qui fait qu'à la fois je suis dedans dehors, c'est-à-dire je suis dans mon corps et en même temps c'est comme si j'avais une vue d'avion de moi. Et avec ça, on va pour appeler ça comme un état de conscience. Mais en même temps, cet état de conscience, il permet d'aller vers le lâcher prise. C'est-à-dire plus t'es en contrôle, plus à un moment tu peux permettre que tous les paramètres soient là pour que d'un seul coup ça te dépasse. L'idée, c'est à un moment d'être dépassé. Mais pour ça, faut pas attendre que ça vienne, faut le provoquer.
Alors l'autre décalage, c'est vous, non pas dans un rôle à contre-emploi, mais dans un théâtre de répertoire où l'on a peu l'habitude de vous voir, vous l'évoquiez. Il y a eu du Tchekhov, il y a eu du Shakespeare, mais vous êtes plutôt rattaché au théâtre et aux textes contemporains, dont ceux d'Olivier Cadio. Providence, Lear is in town, Un mage en été, Un nid pour quoi faire, mise en scène par Lagarde, donc on a une complicité à trois. Ou dans Yann Karski aussi, Mon nom est une fiction, une adaptation par Arthur Nosiciel du roman d'Yannick Enel. Comment vous définissez cette école, celle qui vous réunit avec Lagarde et Cadio? Quelle éthique du théâtre vous défendez ensemble?
Je pense que tous les gens qu'on a nommés font confiance à une grande intelligence du public. C'est-à-dire, un spectacle ne se fait pas tout seul. On n'impose pas un spectacle, on le partage avec un public. Quand je dis qu'on le partage, c'est que je pense que les personnes qu'on a évoquées là laissent un espace pour le spectateur pour rêver aussi son spectacle en direct. Et le spectacle se fait, on va dire, entre nous deux. C'est-à-dire que l'imaginaire n'est jamais bloqué à l'intérieur de ces propositions. Et Dieu sait qu'à chaque fois, c'est des propositions chez chacun de ces artistes extrêmement fortes, extrêmement puissantes, mais qui jamais ne ferment le sens. Et nous, acteurs, à l'intérieur de ça, on est un peu comme l'intermédiaire entre le public et les propositions de ces metteurs en scène, qui fait que ben voilà, la chose se fait ensemble et on n'impose pas quelque chose, on ne plaque pas quelque chose. Les gens ne sortent pas en disant c'est ça qu'il fallait penser et rien d'autre.
Et vous disiez l'importance pour vous aussi comme comédien, comme acteur, de repartir du texte. Écoutez à ce propos ce qu'en disait Olivier Cadio. Il était autour de cette grande table en discussion avec Claude Arnaud sur la littérature française. C'était à l'occasion de la sortie de son Histoire de la littérature récente. Il nous disait que le livre, l'important, c'est cette accumulation d'humeur qui peut être ouverte quand on ouvre les pages du livre.
Finalement, un livre, ce que ça promet, c'est l'accumulation des humeurs. Enfin, c'est-à-dire, finalement, la dépressivité, le doute, le repentir ou l'exaltation. Et donc, les cinq techniques, ces cinq humeurs qui, finalement, vont construire, cinq humeurs qui vont construire progressivement en creux. C'est une idée d'une banalité folle, hein, c'est de dire cette activité bizarre qui consiste à travailler inlassablement sur un objet vide et qui progressivement va se remplir comme une contre-forme, comme vous savez les embauchoirs comme, dans les chaussures, quoi. C'est-à-dire que c'est un objet qui va se former à force de travail comme une sculpture. Je ne sais pas comment décrire ça. Je passe mon temps dans le livre à essayer de décrire cette opération bizarre. Ça ne veut pas dire travailler sur du vide de manière tragique. Pour autant, ça veut dire travailler de manière assez concrète sur une chose qui se dérobe comme si on sciait la branche sur laquelle on était. Voilà, donc c'est-à-dire c'est un travail qui consiste à détruire ce qu'on fait en avançant et progressivement cet exercice finit par magie, par produire, alors j'appelle ça du réel pour le coup, c'est-à-dire un objet qui a une matière.
Parce que dans le jeu, on imagine, pareil, Laurent Poitrenaud, qu'il y a quand même une part de joyeux, pas qu'une quête laborieuse, mais aussi tout un parcours qui se fait dans une forme de bonheur, non ?
Oui, bah pour revenir aux gens que vous avez cités, que ce soit Ludovic Lagarde ou Arthur Nozissiel, et Dieu sait que des fois on a fait des spectacles un peu sombres, si je pense à Yann Karski par exemple avec Arthur, il y a tout, la joie est toujours au rendez-vous. La joie du travail, la joie du partage, la joie du travail bien fait. Et par exemple pour Yann Karski avec Arthur Nozissiel, les gens étaient un peu surpris à chaque fois qu'ils nous voyaient sortir du spectacle, assez léger de cette manière, après avoir traversé quand même un spectacle éprouvant pour tout le monde. Mais on était joyeux de ça, on était léger de ça, du travail accompli et du travail partagé. Donc oui. Et je revendique, là, on sort du concours, puisque Arthur Nozissiel m'a proposé d'être responsable pédagogique de la nouvelle école du TNB. Et c'est vraiment à travers le concours, je crois que c'était un message qu'on voulait faire passer à tous les candidats, les jeunes candidats. C'est qu'on peut passer un concours dans la joie, même si on sait que c'est une épreuve, même si on sait qu'il va y avoir des choix douloureux et qu'il va falloir choisir au bout du compte. Mais je voulais qu'à travers ce concours, on puisse dire, voilà, ce métier peut aussi se faire avec de la bienveillance et de la joie.
Vous faites un sourire en disant ça, non?
Oui, mais parce que... parce que vous savez, je suis très impliqué là-dedans, ça me touche beaucoup et que je pense que... tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'on a proposé, par exemple, à travers ce concours, mais je pense que c'était vraiment une vision du métier et du monde aussi.
Voilà. Quelle que soit la pièce, quel que soit le rôle, quel que soit le contexte, qu'est-ce que vous cherchez à insuffler à vos personnages?
À parler comme l'auteur a voulu qu'il parle. Je me souviens que j'avais fait Ébauche d'un portrait, d'après le journal de Jean-Luc Lagarce, avec François Béreur. Alors c'était une drôle de matière, puisque c'est le journal de Jean-Luc Lagarce, et quand les gens sont venus voir le spectacle, certains l'avaient connu de manière très proche. Et beaucoup de gens m'ont dit « Ah, mais c'est incroyable, je l'ai vu, il était là. Donc vous avez regardé beaucoup de films, vous avez écouté. » Et j'ai dit « Non, jamais, ça m'aurait tétanisé. » Par contre, j'ai essayé de respecter, je m'en rappelle à l'époque, la ponctuation, l'écriture, le rythme. Et à partir de là, si je pense que j'avais dû bien faire mon travail, je pense qu'il y a quelque chose du souffle de Jean-Luc Lagarce qui me traversait et qui faisait que les gens le voyaient. Et donc voilà, moi c'est essayer de faire parler l'auteur tel qu'il a rêvé que ça parle.
Là, c'est la mouche de David Cronenberg qui est en train de se rejoindre dans ce studio. Oui, bravo de ne pas vous laisser déconcentrer.
C'est une partenaire.
Ah voilà, elle nous accompagne jusqu'à midi et demi. Laurent Poitrenaud est notre invité.
France Culture. La grande table, Olivia Jesbert.
Au cinéma, vous êtes l'ex dans Victoria de Justine Triet, le juge dans La Chambre bleue de Mathieu Amalric, un VRP en encyclopédie dans D'amour et d'eau fraîche, et aujourd'hui Bruno dans le film de Ilan Klipper, en salle actuellement depuis mercredi, un personnage de son temps qui aurait pu apparaître aussi dans un film de Vincent McCain, en mal d'époque, inadapté, une figure quand même assez poétique. On va écouter la bande-annonce de ce film, Le ciel étoilé.
Tu veux quelque chose de fort?
Oh!
Mais c'est pas possible! Tu te fous de ma gueule?
Bonjour, je m'appelle Sophie Andreu.
Ah, Sophie.
L'amour arrivé.
Il croit que c'est un rendez-vous galant.
J'ai l'impression, ouais.
Comme un coup de poing.
Hospitalisation à la demande d'un tiers, vous voyez? Si ce n'est de vos parents.
Tu es sale!
Vous n'avez pas le droit d'être là!
C'est ça, non, les pervers narcissiques.
Ne me touche pas!
J'ai l'impression qu'on est un peu du côté de la paranoïa.
Dis-le, pourquoi tu veux plus nous voir?
Mon petit Bruno, notre argent, tu l'auras quand on sera mort.
Bruno?
C'est l'instant magique.
Vous courez tout nu la nuit dans la cage d'escalier? On est dans les toilettes, là.
Il y a eu comme un flash et j'ai senti un frisson.
L'histoire de ce type qui arrive plus à sortir de chez lui. Il s'agit de vous. Je pense que vous êtes sur une ligne de crête, très haut, près des nuages. Là où se trouve l'inspiration.
Le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Quelle blague! Et puis quoi encore?
Bon. Bah, amusez-vous bien, hein. Salut.
Salut.
Pourquoi ce titre, Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes?
Ouais, je crois que c'est une référence à Kant, mais là je ne vais pas la voir exactement. Je suis sûr que vous avez bien travaillé, que vous l'avez déjà sous les yeux.
Mais je ne suis pas du tout là pour vous aider dans ce genre de moment. Non, j'aurais pu dire, il paraît que c'est une référence à Kant.
Tout à fait, c'est une référence à Kant, mais que je ne vais pas redire.
Qui inspire crainte et admiration.
Voilà.
Ouais.
Non,
mais ça veut dire que quoi, le ciel, il peut nous protéger comme un toit, mais il peut aussi nous tomber sur la tête. C'est plutôt ce qui est arrivé à Bruno.
Bah là, oui, c'est un peu les deux. Disons qu'à un moment, il a eu la tête dans les étoiles, parce que c'est quelqu'un qui a eu un succès il y a une vingtaine d'années quand il a écrit un livre. Il a eu, voilà, même le Goncourt. Enfin, voilà. Et puis, depuis 20 ans, le ciel est un peu là, lui est tombé sur la tête mais de manière très, très lente, en 20 années. Et là, on le retrouve dans un moment un peu. Voilà, il s'est un peu coupé du monde, on va dire. Il est un peu enfermé dans sa maison, où on l'entend un peu, à hurler, à siffler.
Oui, parce
dormir.
Qu'il est confronté aux affres de la création, ce pauvre Bruno. Hein. Il est souvent en peine d'inspiration, au prix d'un élan d'écriture qui retombe parfois comme un soufflet. Comme comédien, et donc comme interprète, vous, Laurent Poitrenaud, vous avez eu à souffrir de ce manque d'inspiration, parfois de textes un peu faibles, qu'il est difficile à porter ou à rendre vivant.
J'étais plutôt gâté. Hein. Là, on parle à les gens dont on a parlé, que ce soit Olivier Cadieux ou Pascal Rambert plus récemment, Yannick Enel. Enfin, tout. Voilà, j'ai été confronté à des écritures de gens qui sont au travail et qui te portent. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Et là, c'est le cauchemar. Hein. C'est le cauchemar intégral. Hein. Parce que le problème, c'est un problème d'énergie en fait. Quand je travaille sur un texte d'Olivier Cadieux, par exemple, je sais que l'énergie que je vais y mettre, le texte va me la rendre au centuple. Donc, je ressors presque plus galvanisé que je suis arrivé. Par contre, un texte ou un projet un peu fragile, c'est un peu comme si pour faire avancer une locomotive, tu décimes la forêt amazonienne pour avancer de 3 mètres, quoi. Et c'est très, très, très fatigant, quoi. Voilà. Et ça t'épuise. Et je pense que ça te blesse aussi. Enfin, il y a un moment, tu fais pas ça impunément. Quand je dis aux jeunes gens, faites attention à vos choix, évidemment. On fait pas toujours les choix qu'on veut, mais faites gaffe parce que vous ferez jamais impunément les choses. Il y a quelque chose qui va vous blesser un peu. Tu vas t'user. Il y a quelque chose qui va user ton outil plus rapidement que d'autres textes.
Mais il est quand même, Bruno, dans une quête d'absolu aussi. Est-ce que ça, vous le partagez avec lui?
Ah bah oui, et puis évidemment, enfin je considère mon métier, je vais employer des gros mots, mais comme un art, voilà, l'art de l'acteur, un art de l'acteur qui est d'ailleurs souvent qui peine à être lu, qui peine à analyser souvent, mais moi j'aime bien réfléchir à mon art et à le partager, à poser des mots dessus et pas juste à être dans une chose un peu chamanique de l'acteur, un peu genre, je sais pas, je l'ai senti, je l'ai pas senti, c'est venu, c'est pas venu, je sais pas, oh là là là, ou de la tripe sur le plateau seulement. Non, moi j'aime bien réfléchir, j'aime bien penser à comment ça grandit, puis comment analyser ça. C'est pour ça, par exemple, avec Olivier Cadieux, j'aime bien ça de discuter comme lui quand il parle de son écriture, comme on l'a entendu. Je sais pas, c'est très concret, c'est à la fois très imagé et très concret. Voilà, tout ça pour dire que voilà. Mais son métier comme un art.
Vous avez fait des écoles, une école?
Non, j'ai raté les écoles.
Vous avez raté les écoles.
Ouais,
donc, s'il n'y avait pas eu toutes ces rencontres, vous seriez quand même entêté ou vous auriez un moment abandonné?
Ah ça, faut... vous me faites réécrire le film, je sais pas, il faudrait faire un retour en arrière et voilà, comme dans le film de Kieslowski, on repartirait, il aurait raté toutes les écoles et personne n'aurait rencontré. Mais là, je sais pas quoi vous dire. Non, moi je crois que si on a une nécessité profonde, il y a quelque chose qui avance, tu trouves les gens, les chemins, des fois ils sont plus hasardeux que d'autres. Moi finalement, pendant longtemps, j'ai regretté de pas avoir fait les écoles et puis finalement je me dis que c'est une chance que j'aurais pas fait toutes les rencontres que j'ai faites.
Harpagon et Bruno, ils ont quand même quelques points communs, peut-être un grain ou un brin de folie, ce sont l'un et l'autre deux anti-héros, pas vraiment flamboyants. Par contre, ce qui les oppose, c'est leur rapport au monde. D'un côté, on a une sorte de Machiavel matérialiste, et de l'autre côté, avec Bruno dans le film, Dylan Klipper, un doux rêveur, plutôt idéaliste. Est-ce qu'on peut les décrire l'un et l'autre comme ça?
Oui, c'est une bonne description. Mais c'est intéressant sur Harpagon, parce que je me souviens d'une rencontre publique, quelqu'un m'a dit, mais vous savez, moi j'ai pas... C'est marrant, j'ai pas été touché par votre Harpagon. J'ai pas trouvé son humanité. Et je dis, mais ça me va bien, ça me gêne pas. Parce que souvent, quand on veut. Ce que j'entendais derrière cette réflexion-là, c'était de dire, pour sauver le personnage, en fait. Et moi, le Harpagon, il a pas du tout envie d'être sauvé. Quand Molière lui met dans sa bouche, à la fin, on est quand même dans les trois dernières répliques, que sa fille dit, mais tu sais, il faut pas que t'emmènes mon amoureux aux galères, parce que voilà, c'est lui qui m'a sauvé de la noyade. Il dit, mais j'aurais préféré qu'il te sauve pas que de faire ce qu'il a fait. Voilà, donc il aurait préféré tuer sa fille. Donc ça va, donc on est quand même à un degré de violence pure, et moi je pense qu'il faut l'assumer cette violence, que je pense que c'est là où l'humanité revient, la vraie, la pure, la dure. Et parce que souvent je trouve que quand les acteurs essayent c'est une manière de sauver leur personnage, mais se sauver eux aussi. C'est-à-dire, moi aussi j'ai ma petite part d'humanité. Quant à Bruno...
Justement, elle est où la violence pour vous dans Le ciel étoilé au-dessus de ma tête?
La violence, je pense qu'elle est plutôt à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, en le faisant, d'abord, on reparlait de la joie, on va toujours parler de la joie, mais c'est vrai que Ilan m'a toujours dit, attention, on fait pas l'auteur dans les arts, et puis... Non, il est exalté, il y avait quelque chose d'une exaltation. Finalement, la violence, ça vient plutôt du regard extérieur. Et c'est vrai que moi, en le faisant, je dis, mais c'est vrai que... ça devient de plus en plus dur d'être à côté. Parce que là, en l'occurrence, Bruno, dans le film, il fait de mal à personne. Enfin, je veux dire, c'est juste les gens qui s'inquiètent pour lui. Mais finalement, il vit à côté. Mais je me rends compte que, dans notre société, je pense que c'est de plus en plus difficile de vivre à côté. Alors que je me dis qu'à une époque, ça devait être un peu plus simple. Et ça devient de plus en plus dur, je pense, juste d'être à côté. Voilà.
On en écoute un dernier extrait.
Bon, je m'excuse hein, pour tout à l'heure, hein, la tenue, puis j'avais pas l'air frais. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai lu une étude qui dit qu'on se lave beaucoup trop. Parce qu'en fait, l'eau altère le film protecteur naturel de la peau, et du coup, ça la rend plus sensible aux infections. Alors que l'organisme se régule très bien tout seul. Par exemple, si vous utilisez plus du tout de déodorant et beaucoup moins de savon, alors, c'est vrai que, bon, au début, vous allez sentir un petit peu fort. Oui, mais après, au bout de 6 mois, il ne reste plus que votre odeur naturelle. Et moi, par exemple, pour protéger ma peau, j'utilise un gant de toilette que je ne passe que sur certaines zones de mon corps. Et je ne me savonne jamais les pieds. Et je vous garantis que, non, mais que je sens jamais mauvais.
Bruno. On est venu pour te dire que tu nous manquais beaucoup. Et ta mère est très malheureuse de ne plus te voir.
Ça va pas recommencer, là.
Mais c'est vrai, Bruno, tu nous manques beaucoup. Et puis, on est inquiet. Voilà, ça peut pas continuer comme ça.
Mais oui,
ça va.
C'est... Non, ça va pas. C'est sale. Et d'abord, t'es sale. Tu es sale.
C'est vrai.
C'est maman, mais je vais m'expliquer le contraire. Tout va bien.
Et puis, t'es tout pâle. Mais attends, tu manges au moins. Est-ce que tu manges?
Non, puis je sais pas, arrêtons de parler de moi, là. Laissons plutôt cette changement de personne, là, nous parler d'elle. Non, mais c'est vrai qu'on fasse connaissance.
Vous avez aussi votre propre philosophie de la vie, vous, Laurent Poitronneau, un peu comme Bruno, alors sur la propreté, sur le sommeil ou la fatigue, puisqu'on va parler de ça dans la deuxième partie de l'émission.
C'est moi, je vais être obligé de partir, mais j'écouterai ça en podcast, ça m'intéresse la fatigue, parce que dans nos métiers, elle est à la fois un moteur et en même temps un problème. Donc c'est les deux en même temps. Mais par exemple, le film d'Ilan Clipper, que je remercierai jamais assez de m'avoir confié pour la première fois un premier rôle au cinéma, parce que mine de rien, on apprend beaucoup de choses à travers ça. Et puis la bande d'acteurs qu'il a réunis, là on entendait François Château, Michel Moretti, Camille Chamou, ça a été une bande incroyable aussi. Il a réussi en 12 jours, parce que c'est quand même un film qui a été fait dans une économie de moyens.
Tournage express.
Et puis je trouve que la forme le contient, et c'est ça qui est beau, c'est qu'il a mis en adéquation les problématiques économiques et artistiques. Et ça, je trouve ça beau quand les gens réussissent à faire ça.
Alors, on récapitule.
Ouais.
Le ciel étoilé au-dessus de ma tête est en salle.
En ce moment, depuis mercredi.
Voilà, depuis mercredi. Donc, on espère encore pendant longtemps.
Ouais, je crois que c'est bien. Moi, j'y connais pas grand-chose dans les chiffres, mais je crois que tout le monde est content. Et donc, il faut continuer, hein, faut y aller.
Avec vous, en tête d'affiche. Et puis, sur les planches, il y a L'Avare de Ludovic Lagarde, qui est pour l'instant à la Comédie de Reims.
Tout à fait.
Qui arrive à Paris le 2 juin à l'Odéon jusqu'au 30 juin.
Tout le mois de juin.
Et puis qui va peut-être continuer à voyager.
Ça fait déjà 4 ans, mais je crois qu'on n'en a pas fini. On est à la 116e, 117e hier exactement.
Et cet été, vous ferez quoi?
Cet été, je me repose justement en parlant de la fatigue. Voilà.
Merci d'avoir teasé la deuxième partie de l'émission. Merci beaucoup à vous, Laurent.
Merci à vous, l'invitation.
Merci.